Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. C'est la journée mondiale de la procrastination. Alors on aurait bien aimé que la conférence de presse du jeudi d'Olivier Véran ait lieu demain. Mais non, elle va bien commencer dans quelques secondes ce soir. Évidemment, on va suivre tout ça avec vous. À 18h15, le professeur Gaudry du service réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny sera avec nous. À 18h30, ce sera Philippe Cavrivière et son œil sur l'actualité. Et vers 18h40-45, ça dépend si Cavrivière déborde beaucoup, Frédéric Hermel qui publie un livre qu'il présente comme un petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres. Ce peuple, c'est nous. Et son livre s'appelle « C'est ça la France ». Ça va nous faire du bien. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Découvrons avec vous les grands titres donc de l'actualité de ce jeudi 25 mars.
Et à la une ce soir, cette colère qui monte dans les écoles. Le premier syndicat des enseignants du primaire appelle ce soir à la grève à partir de lundi en Ile-de-France. Dans ce journal également des nouvelles de Roselyne Bachelot, placée sous oxygénothérapie. On vous dira de quoi il s'agit. Le canal de Suez bloqué depuis bientôt deux jours, et puis le décès d'un amoureux, d'un passionné fou du cinéma. Bertrand Tavernier est mort aujourd'hui. Il avait 79.
La météo, Peggy Broche, demain, ça va se regâter.
Oui, bonsoir Thomas.
Bonsoir.
C'est vrai que surtout avec une perturbation qui va arriver par le nord-ouest avec du vent, de la pluie, des pluies soutenues l'après-midi entre la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, sur le reste de la moitié nord, pas mal de grisailles en matinée, un peu plus d'éclaircies en journée. Et dans le sud, du beau temps le matin, mais ça va se gâter dans le sud-ouest avec l'arrivée de nuages, d'averses et de coups de tonnerre. Côté température, pas de gelée et des maximales en hausse de 12 à 18 degrés au nord jusqu'à 21 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les syndicats enseignants passent donc visiblement à la vitesse supérieure. Le SNUIPP-FSU, premier syndicat du primaire, a déposé un préavis de grève en Ile-de-France. Préavis à partir de lundi prochain et jusqu'aux vacances de printemps.
C'est un cri d'alarme pour dire qu'on est là dans une situation où la profession est à bout de souffle. Nous, ce qu'on voulait, et on l'a demandé depuis longtemps, c'est un plan d'urgence pour l'école qui permette d'avoir des budgets pour recruter des remplaçants massivement. On voudrait des masques chirurgicaux fournis par l'éducation nationale pour les enseignants et pour les élèves. Le ministère se targue d'avoir réussi à laisser les écoles ouvertes, c'est a priori une bonne chose, sauf que ça peut pas être à tout prix et ça peut pas être sans moyens supplémentaires.
Elisa Raducanu du SNUIPP-FSU des Hauts-de-Seine, des propos recueillis pour RTL par Marie Guerrier.
Appel lancé au lendemain de la proposition faite par Valérie Pécresse d'avancer les vacances scolaires de deux semaines. Idée écartée ce matin par le porte-parole du gouvernement, pour l'instant en tout cas. La fermeture des écoles doit rester un ultime recours, a dit et répété Gabriel Attal.
Le sujet sera sans doute abordé dans les prochaines minutes par Olivier Véran. Nouvelle conférence de presse, on le disait, du ministre de la Santé. Trois nouveaux départements, le Rhône, l'Aube et la Nièvre devrait s'ajouter aux 16 autres où les nouvelles mesures de freinage ont été mises en place le week-end dernier. Des mesures qu'il faut à tout prix respecter. C'est ce qu'a martelé tout à l'heure Jean Castex. Le Premier ministre s'est rendu à l'hôpital de Melun, au sud-est de Paris.
Il y a un point sur lequel je souhaite insister, c'est le nombre de patients de plus en plus jeunes qui sont admis dans des situations très graves dans les services de réanimation. Preuve que ce variant anglais, dont on savait qu'il était déjà plus contagieux, touche toute la population. C'est aussi incontestablement un variant plus grave qui, plus que jamais, nous oblige d'une part à être mobilisés et à nous apprêter à tout moment à prendre les mesures que la situation impose.
Des patients de plus en plus jeunes, dit le Premier ministre au micro RTL de Jacques Serret. Le constat est le même partout ou presque. Illustration à Lens où vous vous êtes rendu, Franck Hanson.
Oui, la pression est toujours aussi forte dans les services de l'hôpital lensois, encore contraint cette semaine d'ouvrir des lits supplémentaires pour ces unités Covid. Des interventions à nouveau déprogrammées. Dans l'établissement, l'âge des malades évolue, confirme le docteur Yves Piounti.
C'est un flux incessant et avec un nombre de patients croissant. Nous avons effectivement plus de patients plus jeunes. Donc la tranche en dessous, les 55-75 ans, ont l'air d'être un peu plus présents. On rajoute des lits encore cette semaine. Nous étions un secteur de 6 lits Covid vers le mois de janvier. Demain, nous atteindrons 24 lits.
À l'étage du service gériatrie, tous les jours, de nouvelles entrées de patients infectés par le virus. Virginie, infirmière, a du mal à en voir le bout.
C'est pas évident tous les jours. On a l'impression que c'est toujours pareil, qu'il n'y a rien qui avance. On peut faire qu'une chose, c'est attendre et espérer que ça se termine, enfin, pour qu'on puisse souffler.
Virginie, suivez-moi, il nous pense.
Désolée.
Des soignants qui doivent aussi gérer davantage de décès et des familles privées de visites, explique Karine Orme.
D'accord. Des familles à accueillir dans le cadre de décès ou des choses comme ça, où il faut rendre des affaires et puis faire de l'accompagnement. On a beaucoup de décès. Ça fait partie de notre métier, mais c'est difficile.
Et c'est peut-être un des premiers effets positifs de la vaccination. Dans le service, on accueille plus de malades en provenance des EHPAD.
Franck Hanson au centre hospitalier de Lens pour RTL. Roselyne Bachelot, elle est toujours hospitalisée ce soir. Dans un message posté cet après-midi sur Twitter, la ministre de la Culture explique avoir été placée sous oxygénothérapie renforcée.
Mais alors c'est quoi l'oxygénothérapie renforcée?
On a posé la question au professeur Bruno Mégarban. Il est chef de service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.
Ceci signifie que la situation respiratoire de Madame Bachelot s'est légèrement dégradée. L'oxygénothérapie à haut débit s'effectue chez un sujet parfaitement conscient, donc non anesthésié, soit en soins intensifs, soit en réanimation. C'est une petite canule nasale, très confortable, et qui va apporter des très grandes quantités d'oxygène. Ce système est très bien toléré et permet de passer le cap pour éviter d'en arriver à la nécessité d'une anesthésie générale pour être cette fois-ci intubé ventilé.
Des propos recueillis pour RTL par Agathe Landais. Du côté des entreprises, la règle, le gouvernement le répète, c'est le télétravail. Un télétravail pas toujours possible. C'est le cas par exemple à l'usine PSA de Poissy. La CGT s'inquiète ce soir d'une explosion. Ce sont ces mots des cas de Covid là-bas. Elle demande la mise en place de tests quasi systématiques.
Ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est le laxisme de la direction Peugeot Citroën à l'usine de Poissy, quoi. C'est quand même le troisième décès depuis la crise sanitaire. Rien que depuis le 1er mars, on a recensé 45 cas de Covid. Et encore, les chiffres, ils sont en dessous de la réalité, parce qu'elle ne prend pas en compte les travailleurs intérimaires, les sous-traitants. Donc, on voit bien que les salariés viennent travailler la peur au ventre. Je veux dire, nous, il n'y a rien qui bloque, quoi. À part que la direction, elle ne veut pas que les salariés se fassent tester. Elle met en avant la production au détriment de la santé des salariés. Ça, c'est vraiment inacceptable, quoi. On a une infirmerie dans l'usine, il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a tout pour qu'on puisse se faire tester, mais elle refuse catégoriquement, alors qu'on voit bien que depuis le 1er mars, on en est quand même pratiquement à une cinquantaine de cas Covid, quoi. Pour nous, c'est inacceptable.
Farid Borsali, le secrétaire général de la CGT Poissy, joint pour RTL par Christophe Bourreau, je précise que la direction de PSA indique qu'il n'y a pas de cluster dans l'usine. Elle assure avoir pris des mesures renforcées, et ce depuis le printemps dernier.
Et à l'instant, Olivier Véran, le ministre de la Santé, confirme ce qu'on attendait, savoir que trois nouveaux départements vont être soumis aux règles sanitaires renforcées. Il s'agit de la Nièvre, de l'Aube et du Rhône. Il y a donc désormais 19 départements, ces trois-là, pour 4 semaines minimum. Petite pause dans un instant, on part du côté du canal de Suez. Canal complètement à l'arrêt, le trafic maritime mondial pourrait être ralenti pendant des semaines et des semaines.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Suite du journal à 18h09 avec vous, Amandine Bégaud. À l'instant, on apprend le nombre de contaminations ces dernières 24 heures au Covid. 45 000 nouveaux cas, 45 000 nouvelles contaminations. On va tout de suite du côté du canal de Suez, Amandine.
C'est par là que transite tout ce qui arrive d'Asie en Europe, l'un des points de passage clés du commerce mondial. Et pourtant, le voilà donc bloqué. Bientôt 48 heures que ça dure, tout ça à cause d'un porte-conteneur de 400 mètres de long qui s'est mis en travers. Bonsoir Brice Dugénie.
Bonsoir.
Ça risque de durer des jours, voire des semaines, d'après les spécialistes.
Oui, parce que pour l'instant, des péniches sont en train de creuser autour du navire et sur les berges, des pelleteuses tentent de dégager la proue de l'Ever Given. C'est le nom de ce bateau qui est ensablé, mais comparé au géant de 220 000 tonnes et de 60 mètres de haut, c'est totalement dérisoire. Donc pour l'instant, ça ne suffit pas. Il ne bouge pas. Et dans le même temps, il y a des remorqueurs qui tentent de le remettre dans le sens du canal. Mais là aussi, ça ne fonctionne pas. Ils ne sont pas assez puissants. Alors une société néerlandaise spécialisée dans ce type d'opération vient d'arriver sur place pour tenter d'accélérer la manœuvre. Et c'est ce PDG qui dit qu'il faudra des semaines pour dégager le navire et peut-être même décharger les 20 000 conteneurs pour l'alléger et le remettre à flot. Le propriétaire du cargo a présenté ses excuses parce qu'aujourd'hui, 200 navires sont en attente de passage. Ça représente 10% du commerce mondial quand même, ce canal. Et c'est plus de 50 navires par jour. Parce que l'autre option, c'est quoi? C'est de faire le tour de l'Afrique. Mais là, on parle de plus de 8000 km et 10 jours de navigation supplémentaire.
Beaucoup plus long, en effet. Merci Brice Dugénie. On part à présent au procès IKEA. Et parole aujourd'hui aux dirigeants. Anne Le Hénaff, bonsoir. Vous êtes sur place pour RTL. Le tribunal déroule peu à peu la chaîne des responsabilités dans cette affaire d'espionnage.
Le directeur de la gestion des risques casquette à la barre, Jean-François Paris s'est lancé dans un costume bleu marine, raconte que le PDG de l'époque lui a demandé de vérifier tous les candidats à l'embauche. Pour lui, ses supérieurs qui signaient les factures savaient très bien ce qu'il payait. Lorsque l'affaire sort dans la presse, je prends conscience qu'on est dans l'illégalité, dit-il. Il y a une réunion de crise, le mot d'ordre c'est « on va tout nier ». J'ai dit que ce n'était pas possible, tout le monde savait. Alors on m'a dit de rester chez moi. L'entreprise m'a laissé seule sur le banc des accusés. Mais sa mémoire s'effiloche devant les questions précises de la défense, sur des dates, sur des procédures de validation. Et le sourire des avocats des autres cadres d'IKEA se devine sous leur masque. Car eux entendent bien démontrer que Paris est le seul responsable, qu'il mouille les autres pour ne pas être le seul à payer la facture.
Anne Le Hénaff au palais de justice de Versailles pour RTL.
C'est un nom connu dans le monde entier ou presque. On a appris donc tout à l'heure le décès du cinéaste Bertrand Tavernier.
Bonsoir Stéphane Boutsock.
Bonsoir à tous.
On va bien sûr revenir avec vous sur sa carrière, ses films nombreux, mais Bertrand Tavernier c'était d'abord, il faut le rappeler, un passionné fou du 7e art.
Oui, cet homme-là vivait le cinéma, pensait le cinéma, il était aussi le cinéma, il avait été critique, attaché de presse, scénariste, producteur et bien sûr réalisateur. Ses 25 films et documentaires montrent la richesse, la diversité de son inspiration. Très commun peut-être, le combat de ses personnages contre l'injustice et la fatalité. Coup d'essai, coup de maître, 74, L'horloger de Saint-Paul, début d'une longue collaboration avec Philippe Noiret, comme deux ans plus tard dans Le juge et l'assassin, avec aussi Michel Galabru.
Des gamines de 14 ou 15 ans, il y en a même une de 12, elles n'avaient pas le temps de se défendre. Hop !
Vous dites trop vite une chose, mon juge. Je me suis attaqué à des enfants parce que la maladie le voulait.
Qu'est-ce que j'y peux ?
Mais nous en avons tous des tentations, nous y résistons !
Galabru, césarisé pour ce film, Tavernier poursuit sa route, explore d'autres genres. Coup de torchon, 1981, comédie dramatique dans l'Afrique coloniale avec Isabelle Huppert, Philippe Noiret, Guy Marchand ou Jean-Pierre Marielle.
Je me suis dit, est-ce que savoir rien foutre, ça suffit comme but dans la vie ?
Pas toujours, hein.
Est-ce que ça suffit à nous excuser ?
Est-ce qu'on excuse un poteau de remplir un trou ?
Coup de torchon sera nommé 10 fois au César et repartira bredouille. Bertrand Tavernier en obtiendra 3 et le prix de la mise en scène à Cannes 2 ans plus tard pour Un dimanche à la campagne. On peut citer aussi Autour de minuit qui parlait du jazz, une de ses passions. Mais ce fils de résistant devait un jour parler de la guerre, ce qui la font, ses horreurs, ses naufrages. L'injustice de 14-18, c'est La vie, rien d'autre en 89 et puis Capitaine Conan en 96 dans lequel Philippe Torreton est un époustouflant gradé.
Oh, j'en ai bigorné dans ce quartier-là, mes pauvres amis. À la grenade. On a fait du hachis là-dedans, du parmentier. Tiens, là, un grand bulle. Il se tenait le bide, les mains pleines de sang, de merde. Oh, je l'ai flingué à vous portant, il me faisait de la peine, je te jure.
D'autres films en vrac, L627, Oli Lola, La princesse de Montpensier, La fille de D'Artagnan, et puis le dernier en 2013, Quai d'Orsay, une fiction qui nous permettait de découvrir les coulisses du pouvoir auprès d'un Thierry Lhermitte plus vilpinesque que l'original.
Le discours, monsieur le ministre.
Merci, camarade. Il faut parler du conflit des Grands Lacs en Afrique. C'est explosif, cette affaire. Personne ne veut comprendre ce qui s'y passe.
Ah, mais c'est en page 10, monsieur le ministre.
Il faut en parler, je vous dis.
Bertrand Tavernier était aussi le président de l'Institut Lumière de Lyon qui célèbre le 7e art. Un parcours et une œuvre résumés par le titre de son deuxième film, Que la fête commence.
Hommage signé Stéphane Boutsock pour RTL. Merci à vous Bertrand Tavernier, on le rappelle, avait 79.
Il y a beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Ce soir, je vais vous donner celle de Philippe Labro, un journaliste, écrivain et réalisateur lui-même. Bertrand Tavernier, un type unique, un type bien, il incarnait le meilleur de sa génération.
La bonne nouvelle ?
Allez.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Avec un carnet rose, ce soir Thomas, un nouveau pensionnaire pour le zoo Planète Sauvage, c'est près de Nantes. Un petit singe hurleur roux, vous allez me dire, et alors ? Eh bien, il est né mi-février, c'est une première en France, espèce qui est menacée, hein, nous explique Vincent Lantôme, le responsable de l'espace zoologique.
C'est une très bonne nouvelle pour cette espèce. Donc c'est une première naissance sur le sol français, et c'est une espèce qui est présente seulement dans 7 parcs en Europe et seulement dans 14 parcs dans le monde. Donc c'est une espèce qui est menacée dans son milieu naturel, qui est menacée par la déforestation, par les nombreux incendies qui ont lieu en Amérique du Sud, que ce soit dans l'Amazonie ou dans le Pantanal, et également menacée par le braconnage. Le petit est un petit mâle, il se porte très très bien, pour le moment il n'a pas encore de prénom, et donc là jusqu'à l'âge d'un an il va se déplacer entre le ventre de sa mère pour allaiter et le dos de sa mère.
Voilà, il n'a pas encore de prénom. Mais
est-ce qu'il a hurlé à la naissance, alors, le petit singe-hurleur ?
Je crois qu'ils font beaucoup, beaucoup de
c'est
bruit, ces singes-hurleurs. Oh, oui.
C'est mignon.
Des propos du zoo du Vincent Lantôme qui étaient recueillis par Nérissa et Mani.
Merci à vous, Amandine. On le disait à l'instant, trois départements supplémentaires qui vont avoir des mesures plus restrictives. Hein. Il s'agit de l'Aube, de la Nièvre et du Rhône. Le Premier ministre est très inquiet. Il l'a répété cet après-midi. Mais entend-il vraiment les médecins ? Tout de suite, le professeur Stéphane Gaudry, qui travaille dans le service de réa d'un hôpital de Seine-Saint-Denis, est l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Le professeur Stéphane Gaudry travaille au service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Bonsoir et bienvenue à vous, professeur Gaudry.
Bonsoir.
La situation est extrêmement préoccupante avec une troisième vague qui frappe fort. Ces mots-là, ils sont de Jean Castex, le Premier ministre, tout à l'heure. J'aimerais savoir comment ça se traduit au niveau de votre service. Est-ce qu'on meurt beaucoup ? Est-ce qu'on meurt plus du Covid chez vous qu'avant ?
Alors, la mortalité, c'est un sujet un petit peu particulier puisque nous avons une population qui est plus jeune. Et donc, nous espérons bien qu'à la fin, la mortalité de ces personnes plus jeunes sera inférieure à la première vague et la deuxième vague qu'on a vue. Donc, le sujet est plutôt de savoir quel est l'état du système de soins et est-ce que nous serons capables, dans les jours qui viennent, de faire face à l'afflux qui persiste de malades et est-ce que nous pourrons donner le même niveau de soins à tout le monde et dans les meilleures conditions.
Alors, sachant
c'est
que Olivier
très improbable.
Vient de dire la pression hospitalière va continuer de monter dans les prochains jours. À quoi ça va vous obliger, vous ? Qu'est-ce que ça change pour vous dans... Est-ce que, pour dire les choses, vous allez pouvoir accueillir tout le monde ?
Alors, on est en train de se mettre en ordre de bataille depuis maintenant plusieurs semaines avec tous les collègues d'Île-de-France pour pouvoir accueillir le maximum de personnes. Mais si la courbe épidémique suit son cours comme ça avait été prévu, comme c'est en train d'arriver et comme c'est prévu pour la suite, non, nous n'arriverons pas à prendre en charge tout le monde en réanimation en Île-de-France. Il faudra donc, un moment ou un autre, commencer à choisir quel patient rentre ou pas en réanimation. Et c'est déjà en discussion
choisir,
avec
ça
nos
veut
collègues.
Dire choisir ce qu'on soigne et abandonner les autres ?
Alors non, parce qu'on soignera tout le monde. La vraie question, c'est de savoir si on est en situation où on ne peut plus faire de place en réanimation, quel patient peut être soigné en réanimation. Mais les patients qui ne rentreraient éventuellement pas en réanimation seraient soignés ailleurs.
D'accord.
Mais pas avec des soins de réanimation.
Donc seraient moins bien soignés, on peut le dire, pour les cas les plus graves.
En tout cas, ce ne serait pas adapté.
Il n'y aurait pas de réanimation pour tout le monde, pour dire les choses.
C'est évidemment le problème, et c'est bien entendu la situation dans laquelle nous ne voulons pas être. Et c'est pour ça qu'on alerte depuis des semaines, que si on alerte, c'est bien pour ça, c'est pour éviter cette situation où on va être obligé, un moment ou un autre, de dire, telle personne ira en réanimation, l'autre non.
Mais alors, il y a des annonces qui sont en train d'être faites, d'être confirmées. Il y a eu ces 16 départements depuis la semaine dernière avec des mesures renforcées. Olivier Véran vient de redire pas plus de 6 à l'extérieur, ça reste une règle, pas de groupe de plus de 6 personnes. Trois nouveaux départements qui rejoignent les 16 autres. Ça compte pas, ça sert à rien ?
Alors, moi je l'espère que ça compte. J'espère que ces mesures auront de l'effet. Malheureusement, mon espoir est très très faible, puisque quand on regarde bien comment on vit depuis une semaine, je pense que vous serez d'accord pour dire qu'il y a même une partie des gens que je connais qui m'ont expliqué qu'ils se sentaient plutôt déconfinés que confinés depuis vendredi. Donc ces mesures, malheureusement, elles sont beaucoup trop légères pour espérer une cassure de la courbe épidémique.
Alors, il faut quoi pour la casser, cette courbe ? Parce que ça fait, professeur Gaudry, ça fait des semaines que vous, les médecins, vous nous dites, attention, le désastre approche, le désastre est là, on est dans le désastre, et qu'en face, le gouvernement dit, on prend des mesures qu'il faut, il faut faire attention, on est vigilant, et ça va passer. On doit croire qui, nous, qui sommes au milieu ? On est paumés. Pardon, on
Alors,
est paumés.
Alors, je vais vous dire, moi, quand je m'exprime, je m'exprime d'un point de vue sanitaire.
Bien sûr.
Et donc, je ne m'exprime pas ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue économique. Et donc, il y a bien entendu d'autres intérêts à la France, à notre pays, pour dire qu'il ne faut pas confiner l'Île-de-France. Très probablement, parce que d'un point de vue sanitaire, là-dessus, la plupart des gens que vous interrogerez qui connaissent bien le sujet, vous diront que d'un point de vue sanitaire, il faut confiner très vite et très dur. Parce que là, la situation est malheureusement catastrophique et nous allons vers des situations plus graves que l'année dernière à la même époque.
Plus grave que la première vague.
Plus grave que la première vague. Pourquoi ? Parce que nous ne serons pas en capacité de faire les mêmes exploits que l'année dernière. C'est clair, c'est net, nous ne serons pas capables. Nous n'avons pas d'aide de l'extérieur des autres régions, et c'est normal parce que les autres régions sont très impactées. Deuxièmement, les équipes sont à bout. Un certain nombre d'infirmiers et d'infirmières démissionnent dans les services qui prennent en charge les Covid depuis plusieurs mois. Et avec toutes ces raisons-là, eh bien, nous ne pourrons pas faire le même exploit que l'année dernière. Et je vous le dis, l'année dernière, c'était un exploit, la première vague en Île-de-France.
Mais ça veut dire, là, vous nous dites, les mesures sont insuffisantes d'un point de vue sanitaire. Et je vous demande ni de faire de l'économie, ni de faire de la politique, c'est pas votre boulot. Mais d'un point de vue sanitaire, avec ces mesures-là, on en sera où dans 15 jours? Est-ce que vous le savez?
Alors, dans 15 jours, ce qu'on anticipe, c'est très compliqué parce que les profils qui nous ont été montrés sont maintenant dépassés. C'est-à-dire qu'on pensait être dans la situation dans laquelle on est actuellement plutôt dans une semaine.
Donc tout, c'est pire que ce que vous imaginez.
C'est pire que ce qu'on imaginait. Donc, on est sur le pire scénario. Donc, très clairement, si ce scénario se confirme et si les mesures qui ont été prises il y a une semaine n'ont pas d'effet, et malheureusement c'est un risque important, et bien dans 15 jours, le système, en tout cas en Île-de-France, sera au bout de ce qu'il peut faire.
Vous avez toujours été favorable, vous, à ce qu'on laisse les écoles ouvertes. La fermeture, c'est le dernier recours, a dit Olivier Véran il y a quelques minutes. Vous êtes toujours de cet avis? On peut laisser les écoles ouvertes, on peut laisser les écoles
vivre? Alors, je partage entièrement l'avis de notre ministre de la Santé, c'est-à-dire que c'est le dernier recours. Eh bien, moi, je pense que nous sommes face au dernier recours et j'en suis vraiment désolé. J'avais quand même proposé, lorsqu'on m'en avait parlé, que peut-être l'idée de confiner pendant la période des vacances scolaires de février soit une bonne option. En tout cas, c'était mon impression, mais encore une fois, je ne suis pas le seul à m'être penché sur le sujet. Je pense, et je partage ça avec certains de mes collègues, qu'il faut profiter des vacances qui arrivent, peut-être les anticiper.
Vous êtes d'accord avec l'idée de Valérie Pécresse, par exemple, en Île-de-France, on commencerait le 2 avril, 15 jours plus tôt?
C'est, là où c'est très important, c'est, encore une fois, c'est le dernier recours. C'est-à-dire, confiner et fermer les écoles sans faire un confinement très strict de toute la population, ce serait une erreur majeure. Parce que si on confine les écoles, c'est que tout le reste, on a très très bien fait.
D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement confiner les écoles, vous dites qu'il faut fermer le pays.
Bien sûr,
il faut faire comme l'an dernier.
En tout cas, en Île-de-France, il faut bloquer tout pendant 3 semaines si on veut éviter la catastrophe. Si vous regardez la courbe épidémique, vous voyez bien que ça touche les 20-60 ans. C'est là que ça tape le plus fort. Donc les 20-60 ans, c'est qui? C'est les gens qui vont travailler. C'est les parents qui envoient leurs enfants au lycée et au collège. Donc, c'est dans cette catégorie-là que ça explose. Donc, on n'a plus le choix. Il faut malheureusement arrêter pendant 3 semaines si on veut que c'est un effet. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas un homme politique. Je n'ai pas de responsabilité politique.
Mais d'un point de vue médical, votre diagnostic est très clair.
Voilà, médical, santé publique. Ce qui est sûr, c'est que à la fois, nous allons avoir une pénurie de lits de réanimation pour les patients Covid, mais n'oubliez pas que nous aurons aussi une pénurie de réanimation pour les patients non Covid, puisque de toute façon, le système sera à bout. Et deuxièmement, nous sommes en train de prévoir des annulations d'un certain nombre d'interventions à plus de 80% de déprogrammation, ce qui veut dire qu'un certain nombre de prises en charge, notamment de patients qui ont des maladies graves, comme du cancer, vont être retardées, et ça va impacter leur pronostic.
Avec parfois des conséquences dramatiques, évidemment. Professeur Gaudry, un patient ou une patiente placée sous oxygénothérapie renforcée est-il un patient considéré comme étant dans un état grave?
Alors, vous faites allusion. La première chose, c'est que bien sûr, on lui souhaite un bon rétablissement. Moi, personnellement, je n'emploie jamais ce terme d'oxygénothérapie renforcée. Il y a plusieurs systèmes d'oxygénation pour les patients qui ont le Covid. Des oxygénations assez simples avec 6 litres d'oxygène, puis on peut passer à 15 litres, puis des oxygénations plus, qu'on pourrait dire renforcées, ce qu'on appelle à haut débit. On peut monter jusqu'à 60 litres d'oxygène. Je ne sais pas à quoi ce tweet fait allusion, en tout cas.
Mais est-ce que ce sont des situations qui sont plutôt sérieuses, plutôt encore une fois, il n'est pas question de faire un bulletin de santé de Roselyne Bachelot.
Non.
On n'a que cet élément, mais juste pour savoir, c'est ce qu'on appelle des états graves, ce genre de situation pour vous?
Oui, par définition, ce sont des états qui nécessitent une surveillance rapprochée, et en particulier, ce qui est important de surveiller chez les patients qui nécessitent de l'oxygène, c'est l'évolution. Et ça me permet de rebondir un petit peu, pas sur le dossier de Madame Bachelot, mais plutôt de manière générale sur ce qui a été dit ces derniers jours. Il y a eu quelques sous-entendus, notamment de collègues qui disaient qu'on prenait en charge des malades pas trop graves en réanimation. C'est totalement faux. Hein. On est en train de prendre en charge des malades extrêmement graves. Et malheureusement, les malades qui d'habitude venaient en réanimation pour être surveillés parce qu'ils sont à la limite, restent dans des unités conventionnelles actuellement.
Ouais. Pour finir, si vous aviez un message à faire passer à Emmanuel Macron, vous lui diriez quoi?
Écoutez, je n'ai pas ces responsabilités. Je trouve que la crise a globalement été bien géré jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois. J'ai trouvé que les décisions de ne pas suivre le conseil scientifique étaient une mauvaise décision, bien que je puisse comprendre qu'il y ait d'autres intérêts. Je l'appelle à ouvrir les yeux sur ce qui va se passer en réanimation et j'espère que ce qu'on attend, c'est pas qu'on laisse des malades en dehors de l'hôpital et qu'on voit les mêmes images qu'on a vues au Brésil ou dans certaines régions d'Italie. Si c'est ça ce qu'on attend, je pense que c'est pas une bonne chose. Il faut réagir avant.
Merci beaucoup, professeur Gaudry, d'être venu nous voir ce soir. À suivre, l'œil de Philippe Cavaria. Bah, vous allez nous faire sourire, vous avez du boulot, Philippe. Ouais. Hein, bonsoir. Un nouveau sujet dans l'actu a retenu votre attention, je crois.
Si vous pouviez vous rappeler de mon visage, au cas où on arrive à deux en réa. Bonsoir. La présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui s'appelle
Yael Braun-Pivet.
Bravo, dis donc, il a triché.
Non, pas du tout.
Yaya pour les intimes.
Elle est députée des Yvelines.
Bravo, ouais. Dis donc, très bien. Yaya pour les intimes défend le droit de choisir sa fin de vie. Eh ben moi je dis super timing, je trouve que les Français avaient un peu trop le moral, on était un peu frivole, on était un peu foufou. Parler de l'euthanasie, ça nous fait du bien, ça nous remet un peu les pieds sur terre.
Évidemment.
Non, vous trouvez pas?
Ouais, je suis pas sûr, mais bon, on va quand même vous écouter avec attention et avec le sourire juste après la pub et le rappel des titres. À tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres, Amandine.
Et c'est donc confirmé, 3 nouveaux départements vont faire l'objet de mesures renforcées, l'Aube, le Rhône et la Nièvre, et ce à partir de demain minuit pour 4 semaines. C'est ce qu'annonce ce soir Olivier Véran. La pression hospitalière va continuer de monter dans les prochains jours, dit le ministre de la Santé. Mais pas question de fermer les écoles, pas pour l'instant. Le protocole, en revanche, va être renforcé.
La fermeture des écoles, c'est une décision de dernier recours que nous voulons à tout prix éviter parce que nous savons qu'elle a des conséquences très lourdes sur le développement des enfants et sur le quotidien des parents. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut utiliser pour changer le monde. Il y aura un après-Covid, bientôt. Et être parvenu à maintenir les écoles ouvertes sera une force pour la jeune génération.
Ce soir, ce sont 105 écoles qui sont fermées sur tout le territoire, près de 3000 classes. Elles étaient un peu plus de 2000 en fin de semaine dernière. Et puis l'actualité, c'est aussi bien sûr la disparition de Bertrand Tavernier, le cinéaste amoureux fou du cinéma à qui l'on doit notamment L'Appât, Que la fête commence ou encore Quai d'Orsay, est mort aujourd'hui. Il avait 79.
La météo, Peggy Broche, il ne faudrait pas qu'en plus il fasse beau. Hein.
Bah non, ce sera pas dommage. Bah oui, pas terrible demain, notamment sur le nord-ouest, avec un passage pluvieux toute la journée, avec du vent entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Sur le reste de la moitié nord, pas mal de grisailles et de brouillard en matinée et un peu plus éclaircies en journée. Dans le sud, après une belle matinée ensoleillée, le ciel sera nuageux entre l'Aquitaine et le centre, avec quelques averses, voire un coup de tonnerre. Le tout sous des températures en hausse l'après-midi, ça c'est la bonne nouvelle. De 11 à Brest, à 21 à Auch, 16 à Paris, 18 à Strasbourg et 20 à Toulouse.
Merci Peggy. Après ça, il nous reste soit les antidépresseurs, soit Philippe Cavrivière. On va prendre Philippe. L'œil de Philippe Cavrivière. Alors vous êtes comme Olivier Véran qui vient de citer Nelson Mandela. Ouais. Vous commencez avec une citation.
Exactement. Je vais citer le philosophe Alain, car je me bats pour tirer cette émission vers le haut. Alain disait « Où es-tu, Manu Manuel Valls ?» Porté, disparu, Manu Manuel Valls. Oui, c'est Alain Chamfort que je cite. Oui. Je vous tire vers le haut, mais progressivement, par palier. Je ne vous remonte pas trop vite, à cause de la bulle d'air, là, que ça ne vous fasse pas pop dans le cerveau. Mardi, nous avons donc reçu Manuel Valls, le boomerang franco-espagnol. Ah, attention, c'est Manuel Valls qui revient. Ah, tu le balances plus fort, tu le balances plus vite, il revient, Manuel Valls. Et mercredi, on recevait la Jeannie Longo de la mairie, Anne Hidalgo. Bref, c'était notre semaine de gauche, notre semaine France Inter. Bon, Valls, c'est pas vraiment de gauche. Hein, c'est un variant, il a muté un peu.
Bon, le journal Le Parisien, à propos de mutations, de variants et de coronavirus, Le Parisien est revenu sur la naissance du slogan « Dedans avec les siens, dehors en citoyen ». C'est une création 100% Jean Castex, tout le monde se moque. Mais lui, il en est plutôt content, visiblement.
Bah oui, et Bruno Vandelli, le chorégraphe Point Soleil de M6, aussi était tout fier d'avoir trouvé les quadricolores, les quatre couleurs primaires.
Quadricolores. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a quatre couleurs primaires. Ah oui. Quadricolores. Ils sont quatre couleurs primaires. Quadricolores.
Ça va. Bon, il y en avait 3 des couleurs primaires, donc bon, il s'était un peu planté. Mais c'est normal, quand c'est votre idée, quand c'est votre bébé, ben vous l'aimez, votre idée.
Ouais, oui.
On voit toujours beau son bébé. Car notre cerveau nous ment. C'est pour ça que on trouve nos enfants beaux, c'est pour préserver l'espèce. Si on les voyait comme ils sont, eh ben faudrait inventer des poubelles en plus à côté de la jaune et de la verte. Une rose pour les filles, une bleue pour les garçons. Le rose et le bleu qui ne sont toujours pas des couleurs primaires, cher Bruno Vandelli.
Ceci étant dit, partons en Allemagne avec les excuses de la chancelière Angela Merkel.
Mama Schulz s'est excusée. Alors, tous nos politiques français ne se sont pas excusés depuis un an et pour une raison toute bête, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait d'erreur. On est bien tombé, nous on a de la chance, mais on écoute la chancelière quand même.
Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines Oster-Shutdowns war mit bester Absicht entworfen worden, denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen.
Zu bremsen. Et j'aimerais votre réaction à chaud sur la pandémie zu bremsen. Qui veut réagir, Thomas, Amandine,
Amandine je parle allemand. Non, je ne parle pas un mot d'allemand.
Ah, vous n'avez pas appris allemand première langue. Mais écoutez, tant pis, on enchaîne. Cela dit, c'est assez nouveau chez le dirigeant allemand, le fait de s'excuser. Si Hitler avait eu un petit mot gentil, genre j'ai poussé le bouchon un peu loin, je suis soupe au lait, je dis j'ai mal l'effet la fête, avant un début d'explication, s'il avait dit je suis navré. Je ne dis pas qu'on aurait passé l'éponge, mais on aurait gardé une image moins négative.
Après l'Allemagne, on va donc partir en Grèce, si vous voulez bien. Oui. Le président Emmanuel Macron a donc accordé une longue interview à notre ami Nikos Aliagas.
Ouais, Lilou, salut Lilou. Non, c'est pas lui, c'est l'autre Nikos. C'est le Nikos journaliste, il y en a plein, il y a un photographe, ils sont plusieurs. Oui, donc, interview accordée par Macron à la chaîne grecque bien connue RT1.
C'est le service public là-bas, oui.
Exactement. On écoute le lancement, parce que c'est une phrase m'a interpellé, j'aimerais avoir votre ressenti.
Εφόλη στη ύλη συνέντευξη του Εμμανουέλ Μακρόν στην ΕΡΤ και τον Νίκο Αλιάγα. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 9 στην ΕΡΤ 1.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ.
J'aimerais une réaction à chaud et surtout sur le mot. Peut-être est-ce qui veut réagir, Thomas Amandine?
Ah, oui, parce qu'on dit Nico, c'est Nico, et si vous voulez, enfin, c'est le truc de S, Andrea.
Bon, bref, vous parlez pas grec non plus, non. Pas allemand,
non,
pas grec.
Bon, écoutez,
je tiens à m'excuser auprès des auditeurs, mes collègues ici présents ont eu des parcours scolaires très courts et chaotiques. Bon.
Comme vous l'avez constaté, nous ne sommes pas terribles en langue.
Pas
Philippe,
terrible,
revenons à la politique franco-française, si vous voulez bien. Jean Castex a dit qu'il était contre les regroupements familiaux pour les fêtes de Pâques.
Pas de chasse aux œufs, nous dit Jeannot. Il aimerait la remplacer par une chasse aux vieux. Alors le but, trouver les vieux pas encore vaccinés, planqués dans les jardins. Alors sans chasse aux œufs, Pâques va être bien différente cette année. Gabriel Mazneff va faire des grosses économies. Oh. D'habitude, il dévalisait Jeff de Bruges et claquait son PEL au rayon Kinder. Alors à propos de la chasse aux œufs, je m'adresse au nouveau proprio de la maison de Xavier de Ligonnès.
Ah bah, ça fait longtemps, tiens.
Attention, quand vous déterrez un petit œuf, s'il y a un ongle au bout, c'est un orteil. Voilà, ne la mangez pas.
On va quand même terminer par deux bonnes nouvelles.
Enfin, oui,
vous estimez être des bonnes nouvelles. La première, c'est Xavier Bertrand qui est candidat à la présidentielle.
Oh, on est sauvé. What a relief. Oh là là. Il se présente. Alors, il a dit parce que c'est son devoir. Hein, arrêtez le mauvais esprit. C'est pas pour lui qu'il le fait, c'est pour nous.
Oui.
Mais quelqu'un lui a demandé de nous sauver, Xavier. Est-ce que quelqu'un lui a demandé c'est toujours délicat de refuser. Il nous offre sa candidature, mais c'est toujours délicat de refuser un cadeau. Mais on n'avait pas envie plus que ça de sa candidature non plus. Bah, du coup, quand même, l'avantage, c'est qu'on connaît la finale 2022. Ce sera donc Jean Lassalle contre Xavier Bertrand. Et moi.
Oui, parce qu'il a dit qu'il serait au deuxième
tour.
Oui,
voilà.
Ici.
Donc, ouais. On sait, là, déjà. Bon, tant pis, ça casse le suspense. Mais... Alors, moi, je le dis, je vais voter Jean Lassalle. Comme ça, je sais que ce sera n'importe quoi pendant 5 ans. Mais au moins, je pourrais me dire, je le savais. C'est espérer et être déçu qui est pénible, en fait. Et puis, Xavier Bertrand, je vais être honnête, il est trop lisse. C'est un Macron avec le physique de Raymond Barre. Il a une tête de gentil mou. C'est un Teletubbies en costard gris. Ouais, moi, ça me. Bon, pas plus que ça.
Bon, s'il est élu, on est déjà fâché pour le prochain président. Pour les 6 ans
qui viennent. C'est forcément un des deux.
Bon, la nouvelle qui vous fait vraiment plaisir de la semaine, c'est le retour de Michel Drucker sur France 2.
Après avoir échappé à la peste noire en 1349, au choléra en 1588, à la grippe espagnole en 1918 et enfin au Covid, Michel Drucker is back. Michel est tellement âgé qu'il a été vacciné il y a 4 ans déjà, avant même l'existence du Covid. Oui, Michel a connu la belle époque où se levait le jupon d'une dame, ça passait crème. Non, toujours pas. Bon, pourtant Ménès me disait que oui. En revanche, il va falloir annoncer une mauvaise nouvelle à Michel. Michel, va falloir que tu sois fort, Michel. Pendant ton absence, quelques-uns de tes plus fidèles téléspectateurs sont partis pour un long voyage. Bref, il y a eu de la casse dans ton public, mon Michel. Bon, pour compenser la perte d'audience, on va mettre des télés dans le plafond des réas. Comme ça, normalement, ces gens-là ne zapperont pas. On est vraiment content de retrouver Michel, ça c'est sérieux, c'est ce dimanche, parce que Michel, est, on croit qu'il va partir, vient toujours, comme Manuel Valls. On entend Manuel Valls après.
C'est vrai, hein.
Manuel Valls. C'est étonnant, hein. Ben ouais, pour ce, je sais pas s'il se présente.
Faites-moi une icône pour annoncer que vous serez sur France samedi soir.
Samedi soir, c'est The Voice. Ah, pour moi, bah oui, chez Ruquier. Ah oui, je suis chez Laurent Ruquier. Samedi soir. Il n'y aura pas la même ambiance. Ce sera plus calme. Peut-être un rire, il y aura de la gêne, ça oui, je vous
promets. Oh, mais ça suffit. Allez, on vous regardera quand même.
Ah, c'est gentil, vous êtes bien aimable.
On vous aime, hein, vraiment. À suivre. C'est ça la France, ce n'est pas seulement une chanson de Ray Cazaré, c'est aussi le titre du livre que publie un joyeux expatrié. Il s'appelle Frédéric Hermel, il entrera sur le terrain d'RTL Soir dans un instant, à tout de suite.
RTL Soir. Thomas Soto. RTL Soir.
Il était déjà l'auteur d'une biographie remarquée sur Zinedine Zidane. Il publie maintenant une déclaration d'amour à la France. Son livre s'appelle « C'est ça la France, petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres ». Frédéric Hermel est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue Frédéric Hermel.
Bonsoir Thomas Soto.
Dis donc Frédéric Hermel, ça fait 29 ans, j'ai regardé, hein, que vous vivez en Espagne. Est-ce que vous êtes vraiment le mieux placé pour nous parler du pays, monsieur ?
J'attendais cette question, elle est très bonne. Je vous remercie de me l'avoir posée. Ben justement... Parce qu'il faut toujours avoir un petit peu de distance pour pouvoir mieux regarder les choses.
Ouais.
Vous savez, quand vous avez le nez sur le guidon, bah parfois on se rend pas compte du bonheur que c'est que d'être français. On ne voit plus ces petites merveilles qui font la France au quotidien.
Ouais.
Mais quand on vit à l'étranger, et vous savez, actuellement, il y a, selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères, 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Et les Français de l'étranger, ils ont le blues et puis ils pensent tous comme moi en fait.
Ouais.
Quand je leur parle du pain, ils vont dire « Ah mais bien sûr !» C'est simple, pour ce livre, j'ai un peu listé tout ce qui me manquait de la France et je me suis rendu compte que toutes ces petites choses qui me manquaient faisaient la particularité de la France. Donc oui, suis légitime pour parler de la France.
Ça donne une sorte d'inventaire à la Hermel. C'est quoi être français pour vous aujourd'hui ? Ça veut dire quoi ?
Être français.
On sent que c'est viscéral chez vous quand on lit votre bouquin, mais c'est quoi ?
C'est partager des habitudes, c'est partager un système de valeurs. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que je parle dans ce livre de petites choses comme faire des crêpes, le pain à la française.
Le pain, il y a un vrai blues. Hein. On sent la tristesse du mec qui n'arrive pas à trouver du vrai bon pain ailleurs qu'en France.
Mais
il y a un chapitre sur le pain.
C'est le premier, mais celui qui habite en Chine, celui qui habite en Espagne comme moi, au Portugal, au Danemark, où vous voulez, personne ne fait le pain comme la France. Et vous pouvez poser la question à n'importe quel Français qui a vécu à l'étranger, par exemple quelqu'un qui a fait Erasmus, il y a des centaines de milliers de Français qui ont passé un an à l'étranger dans le cadre de leurs études, ben ils vous diront qu'au bout de 3 semaines, la première chose qui leur manquait était le pain.
Enfin, ils font des grandes études, mais il n'y en a pas un qui a eu l'idée d'ouvrir une boulangerie en faisant du vrai pain comme nous.
Si, ben j'en connais à Madrid, mais c'est loin de chez moi, donc c'est compliqué. Non, donc je parle de petites choses comme ça, mais je parle aussi de grands concepts comme la laïcité, par exemple, comme le fait que les Français, c'est une chose que nous ne valorons pas assez. Vous savez, je parle espagnol des fois, je fais des hispanismes. C'est le fait qu'on choisit le président de la République au suffrage universel direct. La plupart des pays dans le monde, on ne choisit pas directement le chef de l'État. La laïcité me paraît essentielle, être français.
Vous expliquez que la laïcité hors de nos frontières,
c'est impossible.
C'est un sacré challenge.
C'est totalement impossible parce que chez nous, on peut très bien être croyant, ce que je suis, et être profondément laïque.
Ouais.
En Espagne, on vous explique qu'un croyant ne peut pas s'entendre avec un laïc et qu'un laïc ne peut pas s'entendre avec un croyant, qu'il y a une opposition naturelle, voire une haine par moment.
Mm-hmm.
Alors que chez nous, on vit ça très bien. Contrairement à tout ce qu'on dit, on vit ça très très bien. La plupart des gens...
Ça dépend quand même, hein, c'est pas simple.
C'est pas simple, mais là aussi, vous voyez, c'est une réflexion de Français de France. Parce que nous, les Français d'étrangers, quand on regarde ces choses-là d'extérieur, on se dit que ça marche pas si mal que ça.
Ouais. Ce petit livre, l'air de rien, est-ce que ce serait pas un livre un peu politique, celui de la nostalgie d'une certaine France, un peu conservatrice, celle du patriotisme, celle du... Oh bah c'était mieux avant, hein. Il n'y a pas de ça un peu ou pas ?
Non, parce que je suis un garçon moderne. Alors j'ai 51 ans. Hein.
Ouais.
Je ne vais pas jouer les poulets de l'année. Mais non, parce que c'est pas réac d'aimer son pays. Je ne l'ai jamais pensé. Même quand j'avais 15 ans, et moi qui suis plutôt au départ un progressiste. Hein. Enfin, je veux dire, je n'ai pas.
Vous dites que vous êtes un peu valsiste, c'est ça, en gros, c'est ça votre...
Oui. En tant que vous l'avez reçu
en tant
mardi.
Que franco-espagnol.
Ben, oui, parce que lui,
c'est
il est
la semaine
de
l'amitié franco-espagnole.
Voilà. Lui, il est de Barcelone. Oui. Manuel, moi, je suis de Madrid.
Footballistiquement, vous n'êtes pas très compatible.
Non. Bon, il est très pro Barça. Je suis plutôt avant tout Racing Club de Lens, oui. Et en deuxième choix, Real Madrid.
Ouais. c'est plein de légèreté. C'est plein de petites madeleines de Proust. Ce livre, un chapitre s'appelle Les révisions du bac pendant Roland Garros. Évidemment, ça nous parle.
Je l'ai écrit pour vous.
J'aurais pu rater le bac pendant 20 ans à cause de Roland Garros. Un autre est consacré au Grand Maul, un autre encore est consacré au catalogue de la Redoute. Mais alors, Frédéric Hermel, qu'est-ce que vous arrivez à raconter sur le catalogue de la Redoute?
Vous savez,
on voit la tête de chapitre, on se dit, ah ben ça, c'est ce qu'il raconte, et on se laisse porter.
On se laisse porter pour une raison très simple, c'est que le catalogue de la Redoute est un objet qui plaît à tout le monde dans la famille.
Oui.
C'est-à-dire que vous avez les gamins qui vont feuilleter les pages jouées, parce que c'est gros, un catalogue de la Redoute, pour faire la liste au Père Noël.
Bien sûr.
Vous avez la maman qui va regarder pour une petite robe, un truc comme ça. En plus, c'est de la qualité. Puis en plus, comme je suis du Nord-Pas-de-Calais, la Redoute, ça parle beaucoup.
Ça me parle, ouais.
Vous avez, à ce tour-ci, oui, on peut le dire, vous avez quand même l'adolescent qui va regarder des pages un peu moins molletonnées, comme je le dis dans le livre. Voilà, c'est vraiment un objet familial où chacun se retrouve. Il y a plein de choses qu'on aime dans le catalogue de la Redoute.
Et c'est un petit morceau de France qu'on vit avec, mais on le voit pas forcément. Voilà, ça fait partie.
C'est ça. Et ce livre, en fait, ça parle de ces choses avec lesquelles vivent les Français. Mais que les Français n'ont plus conscience de vivre au quotidien avec.
Alors vous l'évoquiez, vous êtes un grand supporter du Racing Club de Lens, il y a donc un chapitre sur le RC Lens, il y a la France 98. Et Zidane, tiens, il aime comment votre copain Zidane, la France? Il est comme vous finalement, il est expat?
Il est expat, mais d'ailleurs, ce livre est né de la biographie que j'avais écrite sur Zidane en novembre 2019.
Toujours chez Saint-Marion d'ailleurs.
Je suis quelqu'un de fidèle. Et le dernier chapitre de ce livre s'appelait « Tellement français » parce que je parlais de Zidane, le français de l'étranger. Puisqu'il a vécu en Italie depuis 1996, il est en dehors de France. Ben vous savez, Zidane, il est très patriote. Il y a un exemple tout simple. Dans le livre précédent, je racontais que le jour du premier tour de la dernière élection présidentielle, donc en 2017, il y avait un Real Madrid-Barcelone.
Ouais.
Il était déjà entraîneur du Real Madrid. C'était quasiment la finale du championnat espagnol. Et à 8h du matin... Mes sources m'avaient informé qu'il y avait un type un peu chauve, avec une casquette enfoncée jusqu'aux oreilles, une grosse écharpe, qui faisait la queue au consulat français de Madrid pour voter lui-même. Alors que c'était très simple pour lui de faire une procuration au consulat. Ben non. Être patriote à l'étranger, c'est aussi exercer son droit de vote.
Et ça faut un peu se méfier aussi des caricatures, parce qu'il est donc patriote, même s'il n'a pas toujours chanté la Marseillaise. Par exemple, c'est deux sujets qui sont un peu différents.
On juge
un peu à l'emporte-pièce parfois.
Oui, on pose souvent la question par rapport à ça, et je réponds à ce que je viens de vous répondre, c'est que être patriote, c'est ça, c'est aussi faire un effort, alors qu'il joue quasiment sa carrière sur un match, et ben ce jour-là, ne pas oublier qu'il est français et qu'il a un rôle, qu'il a un droit et un devoir.
Il a lu votre livre.
Je lui ai pas encore donné.
Mais
bien entendu, je vais l'envoyer.
Est-ce qu'il sera un jour sélectionneur des Bleus, Zidane?
Sans aucun doute.
Ouais. Comment il s'entend avec Deschamps, en vrai?
C'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Oui, c'est. Alors, il s'appelle pas tous les jours, mais d'ailleurs, Didier Deschamps a dit du bien de lui il y a quelques jours en disant que ce serait sûrement son successeur.
Ouais.
De toute façon, Zizou, c'est écrit, comme dans la chanson de Cabrel, qu'un jour il sera sur le banc de l'équipe de France.
Et vous reviendrez un jour en France aussi?
Je me demande si ce livre est. Et pas le début du retour.
Ah, il est en train de faire sa valise, ça nous fait bien plaisir. Frédéric Hermel, le livre s'appelle « C'est ça la France, petit musée joyeux d'un peuple pas comme les autres ». Ça vient de sortir chez Flammarion. On y apprend aussi plein de choses. Par exemple, que si la marinière qui est devenue tellement à la mode a des rayures blanches et bleues, c'est pour que le marin tombé à la mer puisse être aperçu par ses camarades à bord. Voilà, c'est ludique, c'est pratique, c'est marrant, c'est instructif et c'est tout vous, Frédéric Hermel. Merci d'être venu nous en parler ce soir.
Merci Thomas.
Elle a reconnu une erreur, elle a même demandé pardon, c'est Angela Merkel, durement critiquée après ses dernières mesures anti-Covid. Ah, le pardon, c'est un vaste sujet d'inspiration pour Julia Molcou dans la culture de l'actu, tout de suite.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Julia Molcou pour la culture de l'actu. Bonsoir Julia.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Angela Merkel a donc changé d'avis. La chancelière allemande avait d'abord décidé de confiner strictement le pays pour Pâques et puis elle a rétropédalé, elle a demandé pardon à ses concitoyens. Alors ce soir, on s'intéresse au pardon dans la culture.
Pardon ne guérit pas la bosse. Proverbe guadeloupéen.
Pardon mon amour.
Ça, c'est un duo, Amel Bent et Gérard Darmon. Alors, Le Pardon, c'est le titre d'une nouvelle de Maupassant publiée en 1882 qui raconte l'histoire de Berthe, une jeune fille élevée par ses parents dans, je cite, l'ignorance des choses de la vie. Au point qu'elle va mettre plusieurs très très longues années à comprendre que son mari la trompe avec la voisine. Ensuite, en revanche, elle mettra un an à lui pardonner.
Ce que je veux, c'est que tu t'excuses gentiment.
Ouais, je m'excuse.
Excuse-toi mieux que ça.
Je te prie de m'excuser.
Pardon, mon doux seigneur.
Alors ça, c'est La Classe américaine, téléfilm délirant écrit et réalisé par Michel Hazanavicius en 93.
Exactement. Et vous avez entendu Mitchum ? Il répète ce que lui demande de dire John Wayne. Pardon, mon doux seigneur, c'est comme une prière. Eh bien, force est de constater que le pardon constitue un concept clé dans la plupart des religions du monde. Le bouddhisme prône l'empathie et la compassion envers tous les hommes. Quant au pardon de Jésus, il est un des fondements du christianisme. Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Très court extrait des sept dernières paroles du Christ en croix de Joseph Hind. Et dans la religion juive, eh bien, il y a Kippour, le jour du grand pardon.
Aujourd'hui, chez les juifs, c'est le Kippour. Aujourd'hui, dans le monde entier, tous les juifs pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. Tous les juifs, sauf un, moi.
Contrairement à ce que dit Roger Hanin, alias Raymond Bethoun, le chef de cette mafia pied noir dans le film d'Alexandre Arcadi, il n'est pas obligé de pardonner le jour de Kippour. Dans la religion juive, Dieu est le Dieu des pardons, plein de pitié, de tendresse et lent à la colère. Il ne supprime pas la faute, il s'en détourne. Mais il n'en va pas de même pour les hommes entre eux. L'offensé qui ne se trouve pas apaisé a le droit de ne pas pardonner, pour un temps au moins. Oui, même si c'est Mylène Farmer qui l'implore.
Pour le coup, il n'y a pas que Mylène Farmer qui demande de pardon en chanson.
Ah non, ça c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais enfin, elle a l'air vachement plus sincère que celui qui vient tout de suite.
Je te demande
encore Claude François.
Mais encore Claude François, mais... Est-ce que là, vraiment, on a l'impression que Claude François demande des excuses ? Non, pas vraiment. En revanche, dans un autre genre plus... Je me mets à genoux devant toi, pardonne-moi. On a Dalida.
Pardon pour tant de jeunesse.
On les voit les mains serrées.
Entre Cavrivière qui imite Ali Agas et vous qui imitez Dalida, on a quelque chose pour le cabaret des deux ânes. On n'est pas loin du spectacle pour la réouverture des salles.
Je suis fière de partager la scène avec Cavrivière.
Non, ça c'est bien. Franchement, on est pas mal. Moi, j'en ai un autre sur le pardon.
Allez-y.
Johnny Hallyday, pardon. Texte de Philippe Labro.
Mais il n'y a pas de texte.
Insolente, écoutez ça.
Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes. Ils n'ont jamais appris le verbe aimer, qu'ils n'ont jamais compris.
Il vous cloue le bec, hein ?
Oui. C'est sur une musique de son fils, David Hallyday, c'est ça ?
Album 100%. Pardon pour ce retard,
Oui, non, mais
une petite pub avant la météo. Alors, pour demain, c'est beaucoup moins joli que ce que chantait Johnny à l'instant.
Pardon.
Hein. Pas mal de nuages, oui.
Sur le nord-ouest, on a une perturbation pluvieuse demain avec pas mal de pluie l'après-midi et du vent. Sur le reste de la moitié nord, le matin, pas mal de grisailles et de brouillard. Une fois dissipé, on va retrouver quelques éclaircies. Dans la partie sud, il fera beau dans la matinée, mais ça va se gâter dans l'après-midi entre l'Aquitaine et le centre avec le retour de nuages, quelques averses, voire un coup de tonnerre et des températures pour les maximales qui vont grimper demain. 12 à Cherbourg, 14 à Rennes, 15 à Lille, 16 à Paris, 18 à Mulhouse, 19 à Bordeaux et jusqu'à 20 à Toulouse.
Merci, à tout à l'heure.
RTL Soir.
19h01.
RTL Soir, Thomas Soto.
Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, 4 Covid ces dernières 24 heures, c'est un record depuis le mois d'octobre, 45 000.
Conséquence, 3 nouveaux départements en restrictions renforcées. En Ile-de-France, situation extrêmement délicate, les profs du primaire appellent d'ailleurs à la grève. Le moral dans les chaussettes, certains Français se sont consolés avec des glaces. Explosion des ventes en 2020. Et puis en rugby, les Bleus affrontent enfin l'Écosse demain.
RTL Soir.
Cette fois, il était seul. En conférence de presse, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait le point sur l'épidémie. Il y a une accélération presque partout et davantage encore en Île-de-France.
À l'heure où nous parlons, 1410 patients réanimatoires touchés par le Covid sont accueillis dans les hôpitaux franciliens. Face à cette situation, au début de la semaine, le système de santé francilien s'est engagé vers ce qu'on appelle le palier 4 de la montée en puissance de la capacité hospitalière. Au-delà de 1500 lits, chiffre qui sera atteint dans les tout prochains jours, vous le voyez, il faut en effet que les hôpitaux publics et privés arment 2250 lits de réanimation juste pour les malades Covid. Aujourd'hui, ce sont entre 35 et 40% des activités programmées qui ont été reportées. À terme, si on veut rendre disponibles les 2250 lits de réanimation, ce sont sans doute 80% de ces activités qui devraient être déprogrammées.
Olivier Véran, conférence de presse.
Augmentation des cas également dans les écoles franciliennes, notamment le SNUIPP-FSU, qui est le premier syndicat des profs du primaire, appelle à la grève en Île-de-France dès lundi, et ce jusqu'aux vacances du printemps.
Avec une journée phare le 6 avril, réponse du ministre, nous ne nions pas que le virus peut se transmettre à l'école, mais leur fermeture est une décision de dernier recours, et d'ajouter, nous travaillons à un protocole renforcé.
Autre annonce, donc, trois nouveaux départements passeront demain soir en restriction renforcée. Il s'agit de la Nièvre, de l'Aube et du Rhône.
Plus de déplacements interrégionaux, limite de 10 km autour du domicile, fermeture des commerces non essentiels. Raphaël Vantard, comment réagissent les habitants de Lyon ce soir ?
Écoutez, il n'y a pas vraiment de surprise ni d'abattement, tant la mesure a largement fuité ces dernières heures. Elle a eu le temps de s'installer dans les esprits des habitants du Rhône. Pour autant, cela reste difficile à accepter pour Christophe et Baptiste, deux jeunes amers à l'annonce de ce nouveau confinement.
C'est honnêtement une mauvaise idée. C'est pas ça qui va faire qu'on se sentira mieux.
Ça détruit notre jeunesse en partie, parce que déjà, couvre-feu, ça évite qu'on sorte et tout, qu'on voit nos amis et tout à notre âge. Ça détruit vraiment notre jeunesse. Ouais.
Gisèle et Jacques, un couple de retraités sur les hauteurs de Lyon, ne cache pas non plus sa déception à quelques jours des vacances de Pâques.
Ça nous enquiquine, ça c'est sûr. Après, il faut peut-être bien prendre des mesures aussi.
On s'y fait un peu. Surtout que c'est pas un gros confinement quand même. C'est pas comme le premier confinement. Quoi. Par contre, on peut pas sortir du département.
Hein. Toutes les vacances qui s'annoncent, enfin nous, on a nos petits-enfants qui sont loin, on ne peut pas y aller. Je crois qu'il faut faire encore l'effort. On attendra cet été.
Les mesures de confinement débutent demain soir dans le Rhône pour 4 semaines. Ça veut dire que les habitants de la région lyonnaise ne pourront pas quitter la zone pour les vacances scolaires qui débutent dans 2 semaines.
Raphaël Vantard, l'un des correspondants d'RTL à Lyon. Restriction qui entre en vigueur vendredi minuit, donc dans ces 3 départements.
Parmi les pistes pour mieux lutter contre l'épidémie, il y a ces autotests promis par le directeur général de la Santé, sauf que c'est pas si simple.
Non, Jérôme Salomon avait même évoqué au départ la mise en vente de ces tests à faire soi-même dans les grandes surfaces. Eh bien, 10 jours après l'annonce, toujours rien, Agathe Landais.
Eh bien non, car il reste encore plusieurs étapes à passer pour ces autotests. D'abord, un arrêté doit être publié dans les prochains jours pour définir les conditions dans lesquelles ils doivent être utilisés. Ensuite, la Direction Générale de la Santé va organiser une expérimentation à grande échelle dans un quartier prioritaire ou sur des étudiants pour évaluer leur efficacité. Enfin, l'Agence de Sécurité du Médicament, l'ANSM, doit encore dresser un cahier des charges pour ces autotests et valider tous les produits des différentes marques. Bref, Jérôme Salomon promettait un déploiement rapide dès la semaine dernière. En réalité, il va falloir attendre encore 2-3 semaines au moins avant de pouvoir s'en procurer, uniquement en pharmacie et en parapharmacie. Pour les vendre en supermarché, comme les tests de grossesse, il faudrait adapter la réglementation. Ce n'est pas la priorité des autorités de santé. Elles préfèrent que ce dispositif médical ne soit délivré qu'en officine, où les pharmaciens pourront expliquer comment bien se tester tout seul. Rappelez qu'en cas de test positif, il faut le vérifier par un PCR, bien s'isoler et surtout se signaler à l'assurance maladie pour qu'elle puisse avertir vos cas contacts.
Explication signée Agathe Landais pour RTL. A noter que Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, est hospitalisée à cause du Covid et sous oxygénothérapie renforcée. Elle a tout de même publié des remerciements sur son compte Twitter pour les messages de soutien reçus ces dernières heures. Alors bon, on ne va pas se mentir, Thomas, depuis un an, le moral a tendance à faire faire du yo-yo, c'est normal. Et parfois, une petite consolation sucrée est assez tentante.
Chiffre
à l'appui, les ventes de glace ont explosé en 2020, plus 10% de chiffre d'affaires l'an dernier, et pas seulement
vous
en été.
Vous avez goûté le yaourt de chez Amorino ?
Ah, j'adore
c'est
ça.
C'est une tuerie.
C'est une folie. Voilà, c'est une folie. Allez-y. Eh bien, ce type de yaourt, d'habitude, c'est plutôt en été, on est bien d'accord. Ouais. Eh bien, là, même en novembre, pendant le deuxième confinement, les Français en ont beaucoup plus acheté que d'habitude, Arnaud Touche.
Et pas qu'un peu, Aude, car figurez-vous que 171 000 tonnes de glace ont été vendues l'année dernière. C'est une saison historique pour les fabricants.
On n'a jamais connu une année comme ça.
Timothée Argenté, le secrétaire général de l'Association des entreprises des glaces.
On a eu des pics sur la période du confinement. Hein. On a eu plus de 30% sur la première période du confinement. Les consommateurs ont cherché à se faire plaisir pendant cette période. On a eu une très belle saison. Donc ça expliquait également aussi que la consommation de glace en France a été boostée aussi par cette période. Mais il y a également aussi l'augmentation du nombre de repas qui étaient prêts à domicile.
Et la plus forte augmentation des ventes revient au mini-pot, plus 31%, suivi juste après du pot traditionnel, plus 24%. Et en troisième position se place le bâtonnet, plus 13%, talonné de près par l'éternel cône, qui n'a pas démérité non plus, avec 11% d'augmentation, selon le cabinet Nielsen. Ces tendances à la hausse se confirment déjà pour l'année 2021, expliquent les professionnels, qui étaient déjà confrontés l'année dernière à certaines ruptures de stock.
Explication sucrée d'Arnaud Touche pour RTL.
Petite pause et ensuite on va voir ce qui s'est passé pour les hommes qui étaient jugés pour le saccage de l'Arc de Triomphe 3 ans après les faits. Une poignée de gilets jaunes qui étaient jugés donc aujourd'hui à Paris.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
19h09, la suite du journal d'Auvernuccio. Les images avaient marqué l'opinion, évidemment, des gilets jaunes qui saccageaient l'Arc de Triomphe en pleine manifestation. Ça s'était passé en décembre 2018.
9 personnes sont jugées depuis lundi à Paris, soupçonnées d'avoir participé aux dégradations. Il ne s'agit pas des principaux responsables jamais retrouvés. Le jugement est tombé, Nicolas Burnand.
Oui, avec des peines légères allant de 70 heures de travaux d'intérêt général à quelques mois de prison avec sursis, 8 au maximum et des amendes de quelques centaines d'euros. Debout à la barre, en rang, les 7 prévenus présents face au tribunal acquiescent d'un signe de la tête à la lecture du jugement. Noémie Saïdi-Cottier est l'une des avocates de la défense.
C'est pas un jugement pour l'exemple, mais c'est un jugement qui est exemplaire, puisqu'on a regardé les profils des uns et des autres et on a déterminé que finalement, quand bien même l'atteinte au bien était grave, ce que les images qu'on a pu voir du saccage de l'Arc de Triomphe, ça pouvait paraître grave, qu'en tout cas, ceux qui étaient présentés ne méritaient pas des peines qui soient excessives. Donc moi, je suis contente en tout cas.
Le tribunal correctionnel a choisi la relaxe, faute de preuves, notamment pour l'un des prévenus, un ancien militaire de 43 ans lié à l'ultra-droite. Le parquet avait requis 15 mois d'emprisonnement. Les autres ont été jugés coupables d'avoir par exemple endommagé une statue, une porte d'accès à l'Arc de Triomphe ou d'avoir volé des cartes postales. Lors de ce procès emblématique du mouvement des Gilets jaunes, alors que les principaux auteurs des dégradations n'ont jamais été identifiés et retrouvés.
Nicolas Burnand pour RTL. Au sud de Rennes, 400 personnes ont rendu hommage à Magali Blandin pour ses obsèques, cette mère de 4 enfants tuée par son mari à coups de batte de baseball en février. Il a été mis en examen.
Il est 19h11 et on file aux États-Unis puisque Joe Biden vient de tenir sa toute première conférence de presse présidentielle.
Une conférence donc depuis la Maison-Blanche, un exercice très attendu par les Américains et sa priorité, il l'a martelé, c'est la gestion de la crise sanitaire, Lionel Gendron.
Oui, avant de répondre aux questions, il a fait cette mise au point. Il vise 200 millions de doses de vaccins administrées dans les 100 premiers jours. Alors pendant la campagne électorale, il évoquait 100 millions de doses en 100 jours, mais ça va beaucoup plus vite, une moyenne de 2 millions et demi de vaccinations par jour en ce moment, parfois 3 millions. Joe Biden, qui est souvent interrogé sur la crise migratoire avec ses milliers de mineurs non accompagnés qui affluent à la frontière mexicaine, mais il revient souvent à la crise sanitaire, précisant qu'il est méthodique, qu'il a été élu pour la résoudre, pour réussir la campagne de vaccination et aider les Américains qui ont subi les conséquences économiques. La conférence de presse est toujours en cours. Joe Biden est aussi attendu sur la législation des armes, sur les armes après la tuerie du Colorado qui a fait 10 morts. Une conférence de presse assez calme, Joe Biden parfois un peu hésitant, mais une conférence beaucoup moins en tension qu'avec son prédécesseur.
Lionel Gendron, correspondant d'RTL aux États-Unis. On en vient à la disparition d'un fou du cinéma. Le réalisateur Bertrand Tavernier est mort ce jeudi à l'âge de 79 ans. Connu dans le monde entier, récompensé à l'étranger, nominé aux Oscars en 83 pour Coup de torchon. Il reçoit un Ours d'or en 95 à Berlin pour L'Appa, mais aussi un Lion d'or à Venise pour l'ensemble de sa carrière. Philippe Torreton a joué dans 4 de ses films, dont L'Appa. Il lui rend hommage ce soir sur RTL.
C'était un homme de cinéma, où le cinéma fait homme, quoi. Toute sa vie, c'était le cinéma. Je passais mon temps à l'écouter et à poser des questions assez terre-à-terre. Il aimait bien ça, en fait. Et il allait voir tous les films, les premiers films, plein de nanars. Sa curiosité n'avait pas de frontières, n'avait pas de dogmatisme. Moi, je jouais un Molière dans une version assez clownesque, et il m'appelle pour jouer un flic dans L627. On a travaillé 4 films ensemble. On a vécu quasiment 10 ans ensemble à se voir, à déjeuner, à dîner. Passer des soirées à parler, à imaginer des rôles, des scènes. C'est un compagnonnage formidable déjà.
Philippe Torreton qui évoquait donc Bertrand Tavernier, joint par RTL, pour RTL, par Stéphane Boutsock. Du sport et du rugby, il y a un gros match hein, demain soir, puisqu'après un long mois de report, les Bleus vont affronter l'Écosse.
Enfin, match reporté, après 17 cas de Covid au sein du 15 de France et de son staff. Rencontre prévue demain à 21h. Alors au-delà de la polémique du mois dernier, ce match a surtout un enjeu sportif très important, Jean-Michel Rascol.
Oui, sans l'incroyable fin de match face au Pays de Galles, ce France-Écosse ne serait qu'un triste match de classement. Il prend au contraire des allures de sommet, la France peut encore gagner le tournoi Destination. Même si marquer au moins 4 essais et creuser un écart d'au moins 21 points face au 15 du Chardon qui présente la meilleure défense de la compétition peut apparaître quelque peu présomptueux. Ce tournoi, s'il fut particulier avec une parenthèse Covid peu glorieuse, a surtout symbolisé le renouveau sportif du 15 de France. Et pour apporter une note de légèreté à cet avant-match, la Fédération Française de Rugby a ironisé aujourd'hui sur Twitter en souhaitant une excellente journée internationale de la gaufre. Référence à peine voilée à la polémique survenue lorsque des joueurs avaient été aperçus dégustant des gaufres justement dans les rues de Rome sans trop de précautions sanitaires. La photo est belle, une gaufre piquée d'un drapeau français avec vue sur la tour Eiffel. Le ciel est bleu, pourvu qu'il le soit toujours demain soir.
Merci à vous Jean-Michel Rascol.
Comme disait Peggy à l'instant, il ne faudra pas se gaufrer demain. Hein. Voilà, mais bon, ça, je lui laisse ses mots d'esprit.
Je crois qu'on a pris 10 kilos en écoutant ce journal.
Merci à vous. La météo. Alors Peggy, quand on va regarder le ciel demain, il faudra plutôt penser à après-demain. Hein, parce que demain, c'est pas...
Oui, c'est pas terrible, surtout sur l'ouest, puisqu'on a une perturbation qui va concerner le nord-ouest essentiellement, entre la Bretagne, la Normandie le matin, jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France et les Pays de la Loire l'après-midi, avec un ciel bien couvert, des pluies plus soutenues l'après-midi, avec du vent. Et sur le reste de la moitié nord, en matinée, là, on aura des grisailles, des brouillards, mais ça va se dissiper. On va retrouver des éclaircies dans la journée. Dans la moitié sud, là, ce sera bien ensoleillé le matin entre l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes, même en remontant vers l'Alsace. Ça ne va pas durer puisque les nuages vont gagner le sud-ouest entre l'Aquitaine et le centre, avec quelques averses, voire quelques coups de tonnerre. Puis on pourra avoir également un peu plus de nuages sur le Languedoc. Les températures, les minimales, elles seront dans la moyenne. Donc pas de gelée demain. 1 degré à Nevers ainsi qu'à Dijon, 3 à Strasbourg, 5 à Toulouse, 6 à Paris, 9 à Nice. Et les maximales, elles seront en hausse. On sera souvent 3 à 5 degrés au-dessus des normales. 11 à Brest, 14 à Nantes, 16 degrés à Paris et à Tours, 17 à Limoges, Nîmes et Marseille, 18 à Strasbourg et Ambérieu, 20 degrés à Agen et 21 à Auch.
Est-ce qu'on peut dire que le retour, le vrai retour du vrai beau temps,
oui,
c'est pour samedi?
Pas complètement samedi pour tout le monde.
C'est pour dimanche.
Oui.
Et oui, c'est encore.
Et oui, voilà, c'est ça. Samedi, ce sera une journée de transition.
Same player, shoot again.
Retour du soleil quand même au sud. Mais c'est vrai qu'au nord de la Loire, on aura un peu plus de nuages samedi, voire quelques gouttes et encore un petit peu de vent, des températures un petit peu fraîche au nord. Mais bon, ça va s'améliorer complètement dimanche, à partir de dimanche, du beau temps pour tout le monde, au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine, des températures très douces même. Et même si les matinées seront fraîches, c'est vrai. Et le pic de douceur sera mardi avec une moyenne de 21 au nord et 22 au sud.
Merci beaucoup. Ça me donne envie déjà d'attaquer la semaine prochaine.
On est
merci
bien d'accord.
Peggy.
Il y a un an, il y a un siècle.
Amandine Bégaud.
Oui, c'est
nous
moi.
Nous sommes le 25 mars.
Oui.
Et votre machine a remonté le temps, là, dans il y a un an, il y a un soir. Vous avez commencé par un voyage qui nous emmène le 25 mars 1942.
Et la naissance d'un mythe. Aretha Franklin.
Est-ce que c'est bon?
Eh ben oui, c'est bon. Elle aurait eu 79 ans aujourd'hui. Autre voix, née un 25 mars également, ça va vous plaire aussi.
On va la faire cette émission musicale ensemble un jour.
Elton John, 25 mars 1947, il fête aujourd'hui ses 74 ans. Au rayon politique. On redevient sérieux.
Sir Elton John. Sir Elton John.
Au rayon politique, cette fois, on fête aussi la naissance aujourd'hui de la CEE, l'ancêtre de notre Union européenne.
C'était le 25 mars 1957, la communauté européenne voyait le jour. 48 heures plus tard, ceux qu'on appelle maintenant les pères de l'Europe signaient le fameux traité de Rome.
Jacques Chirac, maire de Paris, ça aussi c'est un 25 mars, le 25 mars 1977.
Dans 3 ans, j'irai me baigner dans la Seine, devant témoins, pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
24 ans plus tard, toujours un 25 mars, personne ne se baigne dans la Seine, mais la capitale, elle bascule à gauche, Bertrand Delanoë succède à Jean Tiberi.
Monsieur Delanoë, 92 voix élue.
Bertrand Delanoë se lève, acclamé par les élus de gauche, salué par Philippe Séguin, debout, alors que Jean Tiberi reste assis, le regard dans le vide, isolé à l'extrême droite de l'hémicycle. À cet instant, le maire sortant...
Et puis le 25 mars, Thomas, c'est aussi la journée mondiale de...
La procrastination.
Vous savez, cette petite manie qu'on a tous, ou presque.
Pas envie, ça ne presse pas, je le ferai demain. Cela vous est forcément arrivé de remettre quelque chose au lendemain.
Procrastination. Ça vient du grec qui veut dire crasse, c'est-à-dire demain, avec le préfixe pro qui veut dire une direction. Donc la procrastination, c'est la tendance à remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.
Mais c'est la meilleure idée de l'humanité. C'est sur le 25 mars que vous avez choisi de vous arrêter, je vous reconnais bien là.
Ben oui, j'ai appris plein de choses. Cette journée, elle a été instaurée en 2010 par une jeune maison d'édition qui à l'époque voulait sans doute s'offrir un petit coup de pub à l'occasion de la sortie d'un livre intitulé... Demain, c'est bien aussi. Alors j'ai essayé.
Et alors après-demain, je ne vous en parle même pas.
J'ai essayé toute la journée, Thomas, de joindre celui qui en est à l'initiative. Pas de réponse. Demain, peut-être.
Aujourd'hui, peut-être. Ou alors demain. Ce sacré soleil me donne la flemme.
Fernand Sardou.
Exactement.
Et alors depuis?
Depuis, on la célèbre chaque année, cette journée. Il existe des tas de bouquins sur le sujet, ça doit nous passionner. Il faut dire que les Français seraient champions du monde en la matière. Selon une enquête réalisée en 2018, un salarié sur deux reconnaît procrastiner au moins une heure chaque jour au travail. Je ne vous parle même pas du télétravail. Plus de 2 heures par jour pour 22% d'entre eux. Mais cette petite manie anodine comme ça peut parfois tourner au cauchemar, exemple avec ce jeune homme.
C'est comme une phobie un peu. J'ai pas peur des papiers, tout comme j'ai pas peur des cartons, mais je les ferai demain.
Cet informaticien au chômage n'a jamais pris le temps de renouveler sa carte d'identité. Du coup, impossible de s'inscrire au Pôle emploi, ni même de toucher les allocations logement.
Dans la série, vous vous souvenez aussi, sans doute forcément, de Thomas Thévenot.
J'ai traité cette phobie administrative.
Thomas Thévenot et sa phobie administrative. Oui, il a déposé la marque. Hein. Elle lui avait coûté sa place au gouvernement. Oui, il l'a déposé vraiment 3 mois après avoir démissionné. Joli coup. 9 jours seulement donc après sa nomination, cette démission. Alors si j'en crois les archives que j'ai écoutées toute la journée, eh bien tout ça, phobie administrative, procrastination, tout ça, ça se soigne. Une petite phrase, tiens, pour vous aider. À force de remettre à plus tard, la vie finit par nous dépasser. Ah. C'est ce que disait Sénèque et ça ne date pas d'hier.
Ça ira mieux demain, ça ira mieux demain.
Elle m'aime toujours, Annie Cordy.
Mais oui.
Je sais pas pourquoi.
Tout finira bien, il faut profiter du jour qui vient.
Bon, faut dire qu'en ce moment, on a envie de se dire ça ira mieux demain quand même. Hein.
On va procrastiner un tout petit peu le monde tel qu'il est, le temps de vous laisser profiter un peu d'Annie Cordy. Merci beaucoup, Amandine.
Je me fais mon soleil, même quand il pleut. J'ai le cœur léger, quelle que soit la saison. Quand je chante ma chanson, ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain.
Tel qu'il est, c'est dans un instant sur RTL.